Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin dans la matinale est Jean-Marc Grabowski, député municipal de la droite et du centre à Plédran, dans les Côtes d'Armor, ça je le dis pour nos auditeurs éloignés. Et on va parler de politique ce matin en allant chercher un petit peu plus loin que le prisme politique. Bonjour Jean-Marc Grabowski.
Bonjour, c'est un plaisir d'être parmi vous sur cette station généraliste de Bretagne 5 et je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous me poserez sur l'actualité avec grand plaisir.
Alors on va parler justement précisément de l'actualité avec la nomination de Gabriel Attal, jeune Premier ministre de presque 35 ans. Est-ce que ça ouvre des perspectives selon vous ?
Je dirais que d'abord, avoir un Premier ministre jeune, ça ne peut être que quelque chose de positif, puisque donc la jeunesse, c'est quand même l'élan, c'est le dynamisme. Donc, sous cet aspect-là, on ne peut que s'en féliciter. Reste maintenant à voir comment quelqu'un de jeune, de dynamique, qui a quand même une image qui est particulièrement élogieuse, va pouvoir donc réaliser sa mission de Premier ministre, puisque nous sommes quand même en attente de concret, de réalisation et puis d'un meilleur fonctionnement des institutions qui, on l'a vu donc tout dernièrement encore, à l'occasion donc de la loi immigration, a montré quand même de grands dysfonctionnements. Donc attendons, en restant quand même positif et puis en espérant que on puisse répondre, et c'est l'essentiel, aux besoins des Français.
Alors les Français le disent aujourd'hui, ils sentent que le personnel politique est éloigné des réalités du terrain. Alors en tout cas, pour ce qui est de ce qu'on pourrait appeler la grande politique, celle qui se décide à Paris, on a l'impression qu'il y a une distorsion entre les attentes des Français, les attentes des Bretons et le terrain.
En effet, on constate qu'il y a, et c'est ce qu'on va appeler donc une rupture, entre ce qu'on peut donc avoir, et c'est le sens donc de la verticalité dont on parle souvent avec le président actuel, et puis la réalité de tous les jours, la réalité donc de nos concitoyens, d'avoir des réponses concrètes, des réponses de proximité, des réponses qui répondent véritablement donc à leurs besoins de tous les jours, et ces besoins de tous les jours, on les connaît. Mmh. Et la réponse, il faut la porter.
On a vu Gabriel Attal, avant même d'avoir choisi les membres de son gouvernement, hein, puisque ça doit intervenir avant la fin de la semaine, nous dit-on, aller à la rencontre des habitants du Nord-Pas-de-Calais qui sont aujourd'hui encore les pieds dans l'eau avec les inondations. Est-ce que c'est pour vous un geste fort ?
Oui. On ne peut que là aussi s'en féliciter. Donc c'est peut-être là le changement de style. Ce qui est quand même très appréciable. Reste qu'il ne faut pas qu'il s'agisse qu'une question de style. Il faut que ce soit quelque chose qui répond à une réalité. Et il ne s'agit pas d'aller voir pour aller voir. Il s'agit donc d'apporter des réponses à des populations qui sont dans des situations particulièrement difficiles. Et l'exemple que vous citez est éloquent à cet égard-là.
Alors, le style, l'image aussi, beaucoup véhiculée par les réseaux sociaux, par les télévisions, les médias plus largement. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus sur une politique de l'image, en règle générale, là il ne s'agit pas de dire tel ou tel parti, mais en règle générale, que sur une politique de fond ? Est-ce qu'on a oublié le fond, finalement ?
Je suis convaincu que l'une des difficultés que l'on connaît aujourd'hui dans le fonctionnement des institutions et dans le fonctionnement de la vie de notre pays, et ce problème-là, c'est-à-dire le problème de l'image, le problème de la communication qui est donc l'essentiel tel que nos politiques au niveau national peuvent l'apporter, notamment du côté du gouvernement tel que nous l'avons donc aujourd'hui encore. Et c'est quand même une des raisons qui explique donc la défiance que les Français ont vis-à-vis de leur gouvernement et de leur président, et c'est quand même inquiétant. La communication, ça ne peut pas être donc une politique en soi.
Alors, on a l'impression d'une verticalité, hein, vous le disiez à l'instant, Jean-Marc Grabowski, verticalité avec ce président de la République un petit peu omnipotent, c'est un peu aussi le reflet de la Ve République. D'aucuns disent, voilà, il faut la balayer, cette Ve République, elle ne correspond plus à notre temps, elle était taillée pour un personnage, à savoir le général de Gaulle, hein, puisqu'en 1958, c'est lui qui a mis en place cette nouvelle constitution. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée de vouloir la balayer, cette Ve République ?
Surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Nous avons la chance d'avoir une constitution qui remonte en effet donc au 4 octobre 1958, qui vient de fêter donc un anniversaire. Presque, nous allons approcher 100 ans. On n'en est pas encore là, mais on y approche. Donc ça montre donc sa qualité. Ensuite, la question qui peut se poser, et la question qui se pose tout précisément donc depuis l'élection du président actuel, c'est donc la manière dont s'exerce donc et là en l'occurrence donc le mandat de président de la République dans le fonctionnement naturel tel que le général de Gaulle l'avait conçu en 1958. Le président détenait des pouvoirs, sachant que bon, c'est seulement en 1962 qu'il a pu être élu au suffrage universel direct. Mais il était donc en relation directe avec le peuple. Il avait un pouvoir important, mais il allait voir le peuple. Aujourd'hui, le président dispose d'un pouvoir important, mais il ne va pas voir le peuple. C'était tout l'apport que pouvait apporter donc le général de Gaulle à travers les référendums. Dès qu'il y avait un doute, il allait voir le peuple.
On a oublié cette notion de référendum. Il y a une peur finalement d'un vote sanction.
Tout à fait. Bon, il y a quand même quelques mauvais souvenirs par rapport au référendum, puisque donc le dernier référendum n'avait pas été favorable donc au président de la République. Et dans la logique du général de Gaulle, le référendum qui n'était pas favorable, c'était le départ du président de la République. Bon, on n'en est plus là. Donc, raison de plus pour pouvoir le mettre en place. Il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas un plébiscite. On est dans un référendum qui veut dire que donc si le peuple n'est pas d'accord sur une proposition que formule le président de la République, le président de la République n'a pas d'obligation donc de quitter donc son mandat. Raison plus pour pouvoir le faire. Et ça permet justement de conforter la légitimité du président de la République et de nouer ce lien qui nous manque aujourd'hui entre le peuple et son président qui est élu au suffrage universel direct.
On a senti aussi une distorsion entre les rapports aux assemblées, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, avec entre autres l'utilisation, alors Elisabeth Borne est partie, mais elle a été une grande utilisatrice du 49-3. Elle n'a pas battu quand même Michel Rocard, qui l'avait utilisé beaucoup plus. Mais voilà, elle l'a beaucoup utilisé, ça lui a été reproché, et puis est arrivée la loi immigration, qui là aussi risque d'être vidée de sa substance par le Conseil constitutionnel. On en saura un petit peu plus dans quelques temps. Le Conseil constitutionnel devant rendre ses avis normalement fin janvier. Est-ce que c'est une mauvaise façon de gouverner finalement en détournant un petit peu le côté institutionnel des choses ?
On peut distinguer deux choses. La première chose, c'est le 49-3 en tant que tel. Ça, on peut dire de ce point de vue-là que notre Constitution, et là je le redis fortement, est particulièrement adaptée, puisqu'elle permet donc de débloquer des situations grâce au 49-3. Le général de Gaulle, à l'époque, avait bien imaginé l'hypothèse de difficulté entre ce qu'on appelle le législatif et l'exécutif, s'agissant de pouvoir. Donc il avait brillamment donc trouvé une réponse, une parade à ce type de difficulté, puisqu'il s'agit fondamentalement de maintenir une continuité donc de l'État. Reste que l'usage intempestif donc du 49-3 remet en cause un élément fondamental d'une démocratie comme la nôtre, c'est donc le pouvoir législatif. Nos parlementaires, Assemblée nationale, Sénat, députés, sénateurs ont un rôle actif. Nous sommes dans une démocratie, dans un régime parlementaire avec une tendance donc à aller vers un régime présidentiel, mais il est fondamental de respecter le Parlement, qui est l'expression du peuple également. Et le fait d'utiliser le 49-3 comme étant donc un dispositif normal, habituel, remet en cause fondamentalement donc ce qu'une démocratie doit donc faire pour respecter le peuple. C'est donc un souci, un vrai souci.
Sur la loi immigration, le fait qu'elle soit finalement adoptée, puis qu'elle parte au Conseil constitutionnel, j'allais dire parcours assez traditionnel, mais néanmoins avec un président ou un gouvernement qui laisse entendre que de toute façon, j'allais presque reprendre un mot du général de Gaulle, c'était fichu d'avance.
Alors là aussi, on est dans un exemple de pratique, puisque bon... Nous avons une constitution, il y a la lettre, il y a l'esprit, mais il y a la pratique. Et là, on voit aussi qu'il y a une pratique qui est dévoyée, comme le 49.3. On ne peut pas utiliser une institution qui est à la fois le sens de la démocratie, qu'est un conseil constitutionnel, puisque son rôle fondamental est de vérifier la conformité d'une loi par rapport à une constitution. On ne peut pas l'utiliser comme c'est le cas aujourd'hui avec la loi immigration, puisque le président a dit clairement qu'il attendait que le conseil constitutionnel retoque donc des articles d'une loi qui a été votée sous son inspiration. Donc il y a quand même là un problème. On est en train donc d'utiliser des techniques, alors qu'on est quand même sur des fondamentaux, et les fondamentaux, c'est de donner sa vraie mission au Conseil constitutionnel, c'est celle de vérifier la conformité d'une loi par rapport à la Constitution, mais ne pas en faire une juridiction d'appel qui va remettre en cause une décision qui a été prise par le Parlement, parce que donc on considère que donc ce texte qui a été tripatouillé quelque part n'est pas conforme au texte d'origine voulu par le président de la République. C'est un grand souci. C'est un grand souci. Une mesure technique ne peut pas être donc considérée comme un gage donc de bon fonctionnement d'une démocratie. Tout le problème est là.
Est-ce que finalement la politique prend le pas sur les institutions? Là encore, hein, je paraphrase presque le général de Gaulle. À partir du moment où on fait de la politique, on ne fait plus fonctionner l'État.
Tout à fait, tout à fait. La politique est importante. La politique, donc, c'est au sens donc originel, donc la vie de la société, la vie de la cité. Il est important que nos politiques donc déterminent les grandes orientations donc de notre pays, quelles que soient les tendances politiques. Mais il s'agit fondamentalement, et c'est le sens d'une démocratie là aussi, c'est de respecter la Constitution telle qu'elle a été non seulement écrite, dans son esprit, d'autant plus qu'on a la chance, j'y reviens, d'avoir une Constitution qui a montré donc son efficacité, son adaptation surtout, puisque depuis 1958, les situations ont quand même beaucoup évolué, ne serait-ce que cet exemple remarquable, je dirais, d'adaptabilité de la Constitution à travers l'hypothèse que nous avons connue avec un président de droite et puis une Assemblée nationale de gauche et inversement.
Voilà l'alternance,
donc,
la fameuse donc, alternance.
Donc tout à fait, tout à fait. Donc cette alternance. Et donc le fait de considérer la Constitution comme étant quelque chose qui est un outil qui serait utilisé pour pouvoir aller vers des formes donc de manipulation d'une politique qui n'est pas celle qui est voulue par le président est quand même un grand souci pour notre démocratie.
On parlait tout à l'heure de l'éloignement ressenti par les Français par rapport au personnel politique, par rapport au gouvernement par exemple. Alors je dis gouvernement au pluriel, hein, dans l'acception la plus large du terme. Les Français, les Bretons qui ont l'impression que tout se décide à Paris est très loin d'eux. Un mot revient, le fameux mot de décentralisation, cher là aussi au général de Gaulle, et puis plus tard mis en place par Gaston Defferre avec les fameuses lois Defferre. On a l'impression que ça prend quand même beaucoup de temps, cette décentralisation.
C'est un grand sujet, la décentralisation, parce que quand on parle de décentralisation, il faut distinguer la décentralisation et l'autonomie.
Mot qui a été prononcé récemment.
Tout à fait, tout à fait. Lorsque donc le président Macron a fait en fin d'année 2023 une visite en Corse, il est revenu donc sur cette question de l'autonomie, sachant que par rapport à la Corse, l'autonomie a un sens particulier. Il est important donc de bien distinguer les deux choses parce que l'autonomie n'est pas forcément une réponse pour pouvoir mieux faire fonctionner nos institutions. La décentralisation est quelque chose qui existe, qui est relativement récent dans notre paysage institutionnel, mais qui a quand même le mérite fondamental de donner une expression forte aux collectivités territoriales et notamment donc aux régions. Il faut être vigilant quand on parle de décentralisation pour ne pas basculer dans une autonomie, voire une indépendance, puisque c'est une gradation. L'autonomie, elle existe, elle est financière, puisque donc le principe est la liberté d'administration des collectivités territoriales et puis l'autonomie financière. Mais dans le respect des prérogatives donc de l'État, chacun ses compétences. Là où il y aurait donc à faire évoluer le dispositif, c'est plus, je dirais, dans la clarification des rôles. Nous avons quand même, au-delà de l'aspect millefeuille dont on parle beaucoup, nous avons quand même une réalité qui a un sens, qui est celle de collectivités donc territoriales, avec des communes, avec des départements, avec des régions. Chacun a des compétences. Là où est la difficulté, c'est que parfois des compétences se chevauchent. Notamment quand on prend l'exemple du département et de la région. Mmh. Et là où il y a donc des chevauchements, il y a des dysfonctionnements. Donc clarifier les choses, c'est une bonne chose. Basculer vers une autonomie qui serait une autonomie administrative, qui appellerait ensuite donc l'indépendance, qu'elle se fasse de manière mesurée dans des collectivités qui sont ultramarines, donc en dehors donc du territoire métropolitain, on en est là déjà. Pourquoi pas ? Mais sur le territoire métropolitain, soyons prudents, décentralisation intelligente, plus, je dirais, affinée, pour pouvoir clarifier les choses, pourquoi pas, et surtout, allons-y, mais faire en sorte donc d'aller vers une autonomie qui nous ferait basculer vers l'indépendance. Notre pays est suffisamment fragmenté pour ne pas y mettre une autre couche. Nous avons déjà la chance d'avoir dans des régions donc une grande richesse culturelle. La Bretagne en est un exemple éloquent. Donc maintenons donc cette possibilité donc d'exprimer des réalités culturelles comme on a le cas en Alsace ou dans le Pays basque. Et certainement plus fort encore donc en Alsace qu'en Bretagne. Hein. N'oublions pas qu'ils ont quand même donc un système donc de protection sociale spécifique et qui existe que là-bas. Donc soyons donc pour une centralisation intelligente, mais non pas vers une autonomie qui risquerait donc d'aller vers une indépendance qui fragmenterait encore notre pays. Il n'en a pas besoin, notre pays.
La Bretagne, c'est aussi un territoire qui, depuis des années, est amputé de la Loire-Atlantique. On se souvient de la Bretagne à 5 départements. Est-ce que le redécoupage qui fut fait par un président de la République, en l'occurrence François Hollande, avec ses grandes régions qui correspondent, il faut bien le dire, pas à grand-chose en termes culturels, est-ce qu'il faut y revenir là-dessus ? Est-ce qu'il faut, en gros, retrouver la Bretagne à 5 départements et puis avoir des régions plus à taille humaine ?
C'est une grande question parce que donc d'un côté, s'agissant de la Bretagne et du département donc où se situe la capitale historique de la Bretagne, Nantes, c'est quelque chose qui a ça, d'évidence un vrai sens. Donc regrouper donc ce département-là donc pour y faire donc la Bretagne historique, c'est quelque chose qui a quand même une utilité et qui correspondrait donc à une vision, à mon avis, là aussi intelligente donc, des collectivités territoriales. La question qui se posera, mais ce n'est pas une question fondamentale, c'est une question qui se règle tout naturellement, c'est la capitale. Ah. Donc, quelle est la capitale ? Est-ce que ce sera Rennes ? Est-ce que ce sera Nantes ? Est-ce que ce sera donc la capitale historique ? Donc, est-ce que ce sera donc une capitale industrielle, une capitale administrative, c'est pas fondamentalement un souci. Soyons là aussi intelligents et soyons aussi là face à des réalités. Mais englober donc une région Bretagne en y incluant donc le département où se situe cette ville de Nantes, je pense que c'est quelque chose qui peut être donc souhaité.
Alors, on parle aussi de moyens, car la décentralisation, c'est les moyens, les compétences, effectivement, ce millefeuille un peu compliqué à comprendre parfois pour tout un chacun, c'est aussi les moyens. On entend les régions se plaindre aujourd'hui que l'État ne fait pas assez d'efforts, n'aide pas assez les régions, ne participe pas finalement assez financièrement au budget des régions. Est-ce que là aussi, il y a quelque chose à redéfinir entre l'État et les régions ?
Certainement, mais il faudrait aussi les redéfinir du côté des régions, des départements. C'est là où je considère qu'il y a à évoluer sur le plan de la décentralisation. Il n'est pas normal que donc il y ait des compétences. Je vais donner l'exemple de l'économie qui est une compétence qui est souvent partagée donc entre le département et puis les régions. Donc il y a des économies à faire dans une redéfinition claire des compétences. Du côté de l'État, on ne peut pas d'un côté vouloir une décentralisation plus forte, voire une autonomie, et de l'autre côté pleurer de ne pas avoir des moyens qui viennent de l'État. Je crois que les régions pourront jouer véritablement leur rôle lorsqu'elles donc assumeront donc leurs contraintes financières. Ne pas trop compter sur l'État. L'État est un État qui est central dans une logique donc de république centralisée, mais il ne doit pas donc aussi être sollicité pour pouvoir donc avoir constamment des moyens. Mais cela passe, à mon avis, essentiellement sur une redéfinition des compétences. Plus il y a de compétences qui s'entremêlent, plus il y a de déperditions, non seulement en termes d'énergie, mais aussi en termes financiers. Et si on reprend l'exemple de ce qui a été fait par M. Hollande dans cet élargissement des régions tout à fait artificiel, comme vous le notiez, et c'est en effet une situation complètement ubuesque que de voir des régions comme elles ont été créées, mais elles ont entraîné donc des coûts particulièrement importants. Si je reprends l'exemple donc des Hauts-de-France, entre Amiens qui était donc la région d'origine donc et puis Lille qui est donc l'autre région et les deux ont été regroupés. Où va-t-on en termes géographiques, ne serait-ce que ça. Donc Soyons vigilants là-dessus. Commençons par définir clairement les compétences, évitons les chevauchements. Et là, on fera déjà des gains qui ne seront pas que des gains d'échelle, qui seront quand même des gains substantiels. Et ça permettra aux régions d'assumer leurs charges financières sans aller voir du côté de l'État, parce que plus elles iront voir du côté de l'État, puis plus elles seront sous le contrôle de l'État.
On a encore quelques minutes pour évoquer les maires, et en particulier les maires des petites communes, qui aujourd'hui bien subissent beaucoup de choses, subissent une pression administrative, subissent parfois aussi des incivilités, parfois même sont menacés, on l'a vu récemment dans l'actualité. Aujourd'hui, c'est un réel problème. On a des maires qui jettent l'éponge, qui n'ont plus envie de continuer. On a des conseils municipaux qui aussi parfois jettent l'éponge parce que le maire prend des décisions. On a l'impression aujourd'hui que même à l'endroit le plus proche de l'exercice de la démocratie à l'échelle d'une commune, eh bien ça fonctionne pas toujours.
C'est un grand souci. C'est un grand souci d'abord parce que donc le maire, la commune, c'est la proximité. Et on évoquait au départ de cet entretien donc le lien entre le peuple, les citoyens, et puis l'État. Mais entre l'État et le citoyen, il y a la commune qui est l'échelon de proximité essentiel. Donc ça, c'est un élément fort et qu'il faut maintenir. Et on l'a vu tout récemment, particulièrement avec l'impact de la pandémie, donc, où il s'est agi donc, d'être au plus près donc, des concitoyens. Donc c'est un échelon particulièrement important. Là où se situe la difficulté par rapport donc, aux collectivités comme l'est donc la commune, et notamment s'agissant donc du maire et de ses collaborateurs et de ses équipes donc municipales, c'est donc le changement donc là on va parler de paradigme, mais aussi donc le changement donc de cadre dans lesquels s'exerce cette fonction aujourd'hui. Le maire et l'équipe municipale, au sens général, toutes tendances confondues, majorité et puis minorité, donc se heurte quand même à deux difficultés. La première difficulté, c'est pouvoir répondre donc aux besoins, et c'est son rôle fondamental, au maire, de la population, mais en ayant donc deux contraintes particulièrement fortes. La première contrainte, donc, c'est le fait que le maire ne dispose plus de toutes les compétences telles qu'il en disposait. Et ça, c'est l'effet donc de l'intercommunalité, dans la mesure où vous transférez des compétences donc à une communauté d'agglomération, à une intercommunalité. Forcément, vous ne pouvez pas répondre. Et la population ne comprend pas. Comment se fait-il qu'on ne répond pas à des questions qui portent donc sur la gestion des déchets, des ordures ménagères? C'est la compétence de l'agglomération. Pourquoi un maire ne peut pas répondre aux questions tout simplement des portages du repas. C'est transféré fréquemment donc à une compétence de l'agglomération. Donc on ne peut pas répondre, donc ça crée donc une agressivité. On ne comprend pas. Donc la perte de ces compétences voulues dans un cadre juridique qui est aujourd'hui quand même largement utilisé et puis largement profitable pour les collectivités, notamment les petites dont vous parliez. Donc ça, c'est un premier souci. Puis le deuxième souci, c'est le fait du désengagement de l'État. Le fait que l'État s'est désengagé fait que donc les maires ont étendu, à l'inverse de l'exemple que je citais, où ils perdent de compétences, élargi leurs compétences, sans avoir les moyens de ces compétences. Je vais prendre l'exemple donc de la police. La police, donc, qui est une compétence normalement régalienne, qui relève de l'État, eh bien, de plus en plus, les collectivités sont amenées donc à créer des polices municipales, qui ne sont plus des gardes champêtres qu'on a connus par le passé, et ce qui fait que donc ils sont dans une logique où ils prennent des risques, des responsabilités. Et puis on pourrait y ajouter le domaine social, où ils s'interviennent beaucoup, et puis d'autres domaines où ils ont récupéré des compétences de manière, je dirais, indirecte, de manière quasiment officieuse, par un désengagement de l'État, et n'ont pas les moyens. Donc ça génère une agressivité. Donc l'agressivité, elle vient toujours d'une réponse qui ne peut pas être donnée, alors que le maire est quand même quelqu'un qui est là pour apporter des réponses concrètes, et sur lesquelles, donc, les concitoyens, donc la population, attend une réponse.
On en reparlera des maires ici sur l'antenne de Bretagne 5, c'est important, mais le temps passe et on va devoir se quitter. Jean-Marc Grabowski, élu municipal de la droite et du centre à Plédran, on a parlé de politique ce matin, mais d'une autre façon, au sens large et noble du terme. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct au micro de la matinale de Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci beaucoup.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.